Bonjour à toutes et tous. Voilà, donc oui, je connais quelques visages parmi vous aujourd'hui. C'est une joie pour moi de partager ce temps d'enseignement, de message avec la communauté. Merci. Voilà, donc comme Sylvain vient de le dire tout à l'heure, voilà, j'ai été pasteur dans l'Église protestante unie pendant quelques années. Je suis maintenant à la retraite, vu mon âge, mais voilà, j'exerce encore quelques services. J'ai d'abord été très engagé dans l'aumônerie des prisons pour la Fédération protestante de France. Et puis aujourd'hui, je suis responsable d'un mouvement de spiritualité qui s'appelle les Veilleurs, qui ont eu 100 ans il y a 2 ans, et qui ont pour vocation de prier pour l'Église, dans la ligne de ce que Jésus demande, veiller et prier. Voilà, c'est essentiellement notre ministère. Et puis je suis ici aujourd'hui avec mon épouse. Nous avons 3 enfants et 2 petits-enfants, voilà, qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui et qui sont même plutôt éloignés géographiquement. Voilà, donc bienvenue à chacune et chacun venu de plusieurs horizons, en particulier des Pays-Bas. Donc je suis heureux de partager ce temps avec vous aussi. Vous avez parcouru cet été des lettres que Paul adresse à différentes églises. Alors, à défaut de faire une plongée dans les eaux turquoises de la Méditerranée, vous avez plongé dans un certain nombre de lectures parfois un peu difficiles de l'apôtre Paul. Et on vous avait peut-être remarqué que les églises auxquelles il s'adresse sont des églises qui se situent toutes d'ailleurs dans le bassin méditerranéen. Mais dans des pays très divers, puisqu'il y a la Turquie d'aujourd'hui, il y a la Grèce, il y a l'Italie. C'est pour dire le rayonnement du ministère de l'apôtre Paul. Et au-delà de cela, la force de l'Esprit Saint qui fait que ce message parti d'un petit coin de Galilée et de Judée va se répandre tout autour du bassin méditerranéen. C'est dire l'universalité du message de l'Évangile. Hervé a évoqué, je crois, la question effectivement très belle du fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes vus qu'à travers ce que le Christ Jésus a accompli pour nous. Après avoir posé ce fondement qu'en théologie on va appeler la justification par la grâce seule au moyen de la foi, dans cette seconde partie de la lettre aux Romains, Paul va montrer qu'il y a des conséquences concrète, pratique pour notre vie. Ce n'est pas simplement un dogme intellectuel et qui ne resterait que dans nos têtes. Avant de lire les premiers versets du chapitre 8, j'aimerais juste revenir sur ce que l'apôtre Paul dit juste avant au chapitre 7. Il décrit la personne croyante comme prise dans une forme de tiraillement. Je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je voudrais. Je suppose que ça ne vous rejoint pas, mais moi ça me rejoint très fort. Et ce tiraillement, cet écartèlement qui parfois fait que nous nous sentons tellement divisés à l'intérieur de nous-mêmes, Paul va nous montrer qu'il y a une voie possible, un chemin possible vers une unité reçue de Dieu. Ce tiraillement, cet écartèlement entre deux points qui s'opposent, le mal que je commets même si je n'ai pas envie de le faire, et puis le bien qui m'attire mais qu'en même temps je suis incapable de réaliser, ces deux voies-là vont trouver la possibilité en fait de ne plus être écartelantes parce que Jésus a tout accompli. Et Paul va montrer que le péché, finalement, a une fonction tellement négative dans le sens qu'il nous tient repliés sur nous-mêmes, recroquevillés sur nous-mêmes, comme si il venait nous renvoyer une image tellement négative de nous que nous ne pouvons plus nous en sortir. Martin Luther parlait le péché était comme un recourbement sur soi, c'est-à-dire une incapacité de regarder vers Dieu et de se laisser restaurer, remettre debout par son esprit. Et pour sortir de ce désespoir-là qui vient signer ma nullité devant Dieu, mon incapacité de lui plaire et qui vient finalement me vouer à l'échec permanent de ma vie chrétienne, eh bien face à cela, Paul va remettre quelque chose de très important pour nous tous, c'est la capacité que nous avons aujourd'hui de regarder vers le Christ parce que nous avons été regardés par lui. Je lis maintenant dans le chapitre 8 de la lettre aux Romains, les versets 1 à 4. Je le lis dans la version du français courant. Maintenant donc, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Dieu a accompli ce qui était impossible pour la loi de Moïse, parce que la faiblesse humaine la rendait impuissante pour enlever le péché. Il l'a condamnée dans la nature humaine en envoyant son propre Fils vivre dans une condition semblable à celle de l'homme pécheur. Et Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient réalisées en nous qui vivons non plus selon notre propre nature, mais selon l'Esprit Saint.
Zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zal worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest.
Il n'y a plus de condamnation. Si on me demandait de choisir une des paroles de la Bible qui m'a le plus touché ou marqué dans ma vie, je pense que ce serait celle-ci. Certaines d'entre nous vivent dans une forme de culpabilité permanente. Ne pas être à la hauteur, ne pas répondre à l'attente des autres. Ne pas être capable, se sentir souvent très diminué par rapport aux autres et à la comparaison que nous pouvons faire de ce qu'ils arrivent à réussir. Et puis il y a toutes les choses que nous avons commises, donc que nous regrettons amèrement parfois. Et pour moi, ce message, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire par lui, évidemment. C'est un message qui n'a pas qu'une portée intellectuelle seulement. Mais c'est vital et dans mon existence de tous les jours. La culpabilité, c'est comme un petit acide, vous savez, qui ronge tout doucement les parois d'un ustensile en métal, par exemple, ou en plastique. Et qui vient enlever en nous toutes les capacités à marcher en tant que disciples de Jésus. Il n'y a plus de condamnation, dit Paul, et je ne connais pas parole plus libératrice que celle-là. Et c'est pour cela que, sans aucune ambiguïté, sans aucune hésitation, Paul va mettre en parallèle deux manières de comprendre la loi de Dieu. La loi de Moïse, d'un côté, et dont il va dire qu'elle mène à la mort, en fait, parce qu'elle mène à notre incapacité à l'accomplir, et puis la loi de l'Esprit. Mais le plus grave dans toute cette histoire, c'est que en accomplissant la loi de Moïse, nous pouvons peut-être nous persuader que nous sommes du bon côté. Et Paul va nous dire, ne te fais pas d'illusions là-dessus. Ce n'est pas en faisant de bonnes œuvres, bien sûr qu'il faut accomplir la loi de Moïse, mais ce n'est que dans un après-coup, une fois que tu as adhéré dans la confiance à ce que le Christ Jésus a accompli pour toi. Et c'est ce qu'il va appeler la loi de l'esprit. Devenir chrétien, c'est vivre sous l'autorité de Jésus.
Paulus stelt dus dat het leven van een christen is het leven onder de autoriteit van Christus.
C'est accepter que ce n'est plus le péché qui me gouverne. Ce n'est plus lui qui a autorité sur moi.
Het is de fundamentele belijdenis dat je niet meer zegt dat de zonde grip op mij heeft, maar dat de geest van Christus grip op mij heeft.
C'est l'Esprit Saint qui guide ma vie. Et Paul l'exprime d'une façon extrêmement parlante pour moi. Il dit, ce n'est plus la chair qui fait agir le chrétien, mais l'Esprit de Dieu. Alors quand on parle du mot chair, nous voyons souvent en français la viande. Évidemment, ce n'est pas du tout de cela que Paul parle quand il parle de la chair. Il parle plutôt de notre humanité, de l'être humain réduit à ses propres difficultés, à ses propres limites. C'est l'être humain dans sa fragilité. C'est l'être humain qui veut souvent gagner du galon devant Dieu, qui veut être un peu bien vu de lui comme ça, par ses petits efforts, par ses petits muscles. La chair, c'est essayer de se faire son propre nom, un peu comme les hommes de Babel, se faire sa propre identité au lieu de la recevoir du Père. Car nous recevons toutes et tous notre identité profonde de celui qui nous a appelés à la vie. Et me sachant accueilli gratuitement, justifié gratuitement, j'accède à la liberté des enfants de Dieu. Et j'aurais presque envie de dire, ouf, je pousse un ouf de soulagement, je n'ai plus besoin de passer beaucoup d'énergie à justifier ma vie. Jésus le Christ la justifie pour moi. Et je suis libéré du besoin souvent anxieux d'être reconnu par les autres. Dans la condition de notre chair de péché, dit Paul, Dieu, en envoyant son Fils, a condamné le péché dans la chair, afin que la justice exigée par la loi soit accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Versets 3 et 4.
En in vers 2 en 3 geeft Paulus inderdaad aan dat God het vlees heeft veroordeeld in de Heer Jezus Christus, in zijn Zoon, zodat door die Zoon ook dit het leven ons eigendom zou kunnen worden.
Jésus démontre ainsi la folie de la quête humaine de vouloir se qualifier tout seul devant Dieu, d'être entraîné sur un chemin qui voudrait essayer d'atteindre le ciel par mes propres forces.
Ja, Paulus ontraadt het eigenlijk dus hier ook eigenlijk om alle pogingen die je dus zou doen om jezelf eigenlijk te rechtvaardigen voor het aangezicht van de Heer, wat uiteindelijk tot niets leidt, om dat ook niet meer te doen.
Mais il y aurait un danger, évidemment, à entrer dans cette forme de liberté. On a accès à quelque chose de gratuitement libérateur.
Maar er is ook al een gevaar in het staan en in het leven in deze vrijheid die ons eigenlijk naar alle mogelijkheden geeft.
Et on pourrait penser que Paul est un peu dans les nuages et qu'il nous fait entrer dans un monde de bisounours. Je ne sais pas comment la traduire en néerlandais. Mais Paul poursuit et il dit, verset 18, « Les chrétiens sont héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, puisqu'ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire. »
Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden.
Il y a là deux idées, héritier de Dieu, mais ayant part aux souffrances du Christ.
En hier zitten twee elementen in, namelijk het erfgenaam zijn en ook het delen in zijn lijden.
Héritier de Dieu, cela reprend ce qui vous a été dit la semaine dernière. Par adoption, par amour gratuit de la part de Dieu, nous sommes vus, nous aussi, comme des enfants de Dieu, comme le Christ lui-même. Bien sûr, pas de la même façon. Lui, il est par nature fils de Dieu. Nous ne le sommes que par adoption. Mais quand même, entendons bien, héritier de Dieu, nous avons le même statut. Mais nous avons part aussi à ses souffrances, du coup. Parce qu'être disciple du Christ, c'est aussi appeler sur soi des moqueries, du rejet. Devenir chrétien, ça suscite des oppositions. Des résistances, de l'incompréhension. Car si le Christ a tout accompli, ce monde est encore aujourd'hui, et nous le voyons que trop bien, habité par le mal. L'ONG Portes Ouvertes comptabilise environ 380 millions de chrétiens aujourd'hui dans le monde, menacés dans leur liberté. Il n'y a pas une semaine où un attentat ait lieu contre des chrétiens en RDC ou au Moyen-Orient. Paul est un homme réaliste et dans la foi, il voit ce monde tel qu'il est. Nous sommes et nous vivons en tant que chrétiennes, chrétiens dans un monde balafré de malheur, de misère, de douleur, de persécution, de famine, de pauvreté, de danger, de guerre. Et que ce soit dans nos vies personnelles, conjugales, familiales, et aussi dans le rapport entre les peuples, évidemment, nous sommes sans cesse confrontés à cette réalité du mal. Et c'est pourquoi dans le milieu de ce chapitre 8, Paul parle de la création en train de gémir comme une femme dans les douleurs de l'accouchement. Mais ces douleurs ne sont pas une fin en soi. Elles sont en fait un signe que quelque chose vient, se prépare. Elles suscitent l'espérance. Même si notre fidélité est parfois bousculée par la vie et par les oppositions, même si notre foi est contestée, même si elle est moquée dans un monde qui souffre, il vient. Je lirai maintenant la fin du chapitre 8, à partir du verset 31. Que dirons-nous de plus ? Oui, il en dit déjà pas mal. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Personne, car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner ? Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ ? La détresse le peut-elle ? Ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort ? Comme le déclare l'Écriture, « À cause de toi, nous sommes exposés à la mort. Tout le long du jour, on nous traite comme des moutons que l'on mène à la boucherie. » Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon gespaard heeft, maar voor ons allen opengegeven heeft, ook ons ook met hem, die alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, jouw leer is die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is en die ook voor ons blijft. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard? En zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, tegenwoordige en toekomstige dingen, hoogte, nog diepte, enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer.
On aurait envie d'applaudir, en fait.
Je zou je zin krijgen om een applaus te geven.
Rien ne peut nous séparer.
Niets kan ons scheiden.
C'est comme tout à l'heure, il n'y a plus de condamnation.
Hetzelfde trant als Paulus gezegd heeft, niets kan ons nog beschuldigen of verdoemen.
Très franchement, on ne peut pas lire ces lignes en ressortant le même ou la même après avoir compris ce que Paul essaye de nous partager.
Eigenlijk kunnen we deze zinnen niet tot ons nemen en begrijpen zonder daardoor veranderd te worden.
il devrait y avoir à l'intérieur de nous-mêmes, au fond de nous-mêmes, une forme de bouleversement intérieur, tellement c'est fort, rien ne peut nous séparer. Là encore, le péché qui a pour fonction précisément d'écarteler, de tirailler ce que l'apôtre Paul évoquait dans le chapitre précédent, le péché n'a plus aucune emprise là-dessus. On ne se fait pas d'illusions. Je continue aussi, malgré tout, moi aussi à être pécheur, moi aussi à ne pas accomplir ce que Dieu veut faire de ma vie, à ne pas entrer dans son plan d'amour, à oublier sa présence, bien sûr. Mais nous devons nous replacer sans cesse et jour après jour sous cette promesse. Rien ne peut nous séparer. Et toute la question est de savoir si nous croyons vraiment que Dieu accomplit ses promesses pour nous ou pas. J'en terminerai par le dernier point. Je vais sauter les chapitres 9, 10, parce que ces chapitres-là sont un peu particuliers dans la lettre aux Romains. Paul parle du destin spirituel d'Israël, une question qui le taraudait beaucoup. Les promesses de Dieu pour le peuple d'Israël sont-elles toujours valables, valides ? Ces questions-là que Paul se posait parce qu'il était d'origine juive, comme beaucoup des premiers apôtres, nous pouvons aussi nous les poser parce que l'Église a souvent oublié ces deux chapitres-là. Dieu a encore un plan pour son peuple. Mais je vais plutôt au chapitre 12 parce que cela me paraît aussi un point important du message que Paul veut faire entendre aux églises. Chapitre 12, versets 1 et 2. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait.
Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagen. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan de wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is.
Oui, je ne voulais pas terminer ce message en oubliant que Paul, dans les chapitres qui vont suivre, 12, 13, 14, etc., il parle de la manière très concrète de vivre sa vie chrétienne.
Ik wil graag mijn boodschap niet afsluiten zonder de nadruk te leggen ook op de boodschap die Paulus vertolkt in hoofdstuk 12.
Pourquoi cela? Parce que la manière dont nous vivons, en tant que chrétiennes, chrétiens, la manière dont nous manifestons notre certitude, notre espérance, le fait qu'il n'y a plus de condamnation pour nous et que rien ne peut nous séparer, ça doit se voir. Alors, quand il va parler de relations dans la communauté, c'est la suite du chapitre 12, avec un certain nombre de ministères à mettre en place et à vivre dans une certaine forme d'obéissance et d'esprit. Ou que ce soit nos relations avec les autorités politiques de notre pays, il ne faudra jamais oublier tout ce qu'il a dit avant. Nous sommes regardés par Dieu à travers Jésus-Christ. Et du coup, pour notre vie pratique, Paul nous dit de ne pas oublier deux éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est de tout ramener à la gloire de Dieu. Il faut que ma vie concrète, pratique, serve à rendre gloire à Dieu. Et il faut que ma vie de disciple de Jésus puisse aussi être orientée vers le prochain, vers le service. Paul écrit sa lettre au moment où les communautés chrétiennes n'ont pas encore accès aux évangiles tels que nous les connaissons aujourd'hui. Marc a déjà peut-être pris sa plume et son parchemin pour mettre par écrit ce qui sera son évangile, qui est le premier à être rédigé, mais il n'est pas encore terminé. Et pourtant, ce qui me frappe dans ce chapitre 12, c'est qu'il y a plein d'échos aux paroles de Jésus. Mais ce qui montre que la mémoire des disciples s'est transmise dans les églises de ce que Jésus avait pu enseigner. Et vous savez, on a pu dire des fois que Paul était l'inventeur du christianisme, mais je ne le pense pas. Paul marche comme les autres disciples à la suite du maître, même s'il ne l'a pas connu physiquement, il est à son écoute totale. Mais je reviendrai juste sur ce thème, pour moi, là aussi extraordinaire, offrir son corps en sacrifice. Offrir son corps, expression surprenante. Tout à fait à la fin du chapitre 7, Paul avait écrit « Qui me délivrera de ce corps mortel ?» Et Et là, il vient nous dire offrir nos corps en sacrifice vivant.
En hier zegt Paulus, ja, je leven, je lichaam, datzelfde lichaam moet offeren.
Ce corps qui a été tiraillé entre des objectifs contradictoires, il n'a plus besoin aujourd'hui d'être délivré de ce corps-là.
Ja, dat lichaam dat eigenlijk uiteengescheurd is door die verschillende, ja, die tweespalt die we in Romeinen 7 gelezen hebben, gaat over dat lichaam.
Ce corps a juste à se laisser porter et offrir à Dieu comme j'offre toutes les dimensions de ma vie. Offrir mon corps, c'est une manière de dire pour Paul que ce que peut-être parfois, et surtout peut-être dans l'Antiquité, on n'estimait pas beaucoup, eh bien, même cela est à donner à Dieu et Dieu le reçoit. Offrir son corps, c'est offrir aussi tout ce qui me permet d'entrer en relation avec Dieu et avec le frère. Mes oreilles, ma bouche, mes yeux. Mais aussi ma vie sexuelle. Offrir son corps, c'est offrir tout ce qui, de ma personne, va me rendre visible à l'autre. Le corps, est donc, le corps au sens de la Bible, est un corps toujours fait de relations et pour la relation, qui permet de servir et d'aimer dans un lien de don de soi pour la gloire de Dieu et pour le service des frères.
Het lichaam, zoals het eigenlijk op de Bijbelse manier wordt beschreven, is dat alles waarmee je eigenlijk ook uitdrukking kan en mag geven, eigenlijk aan de liefde en dat wat je van God ontvangen hebt, voor zijn glorie aan anderen.
Offrir son corps, c'est une autre façon de dire que je n'ai pas la main sur lui, qu'un autre a autorité sur lui. Que je n'ai pas la main, l'autorité, que je ne m'appartiens pas à moi-même.
Ja, oké, okay, dus juist ook zeggen dat je niet aan jezelf toebehoort, maar er is een andere autoriteit die over jouw leven gaat.
Je suis pas spécialiste des réseaux sociaux, mais je suis étonné de la place que prennent les corps aujourd'hui dans les messages des réseaux sociaux.
Ik ben geen spécialiste in social media, maar ik zie wel inderdaad, en ik verbaas me erover, van welke rol eigenlijk het lichaam speelt in de social media.
J'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que le corps aujourd'hui, il est honoré ou presque glorifié pour lui-même. Le corps est fait pour la relation. Pas pour me recentrer sur moi-même. J'en viendrai au deuxième aspect, le sacrifice. Je pense que beaucoup de gens ont eu l'impression que le christianisme, au fond, c'était la religion du sacrifice. Il fallait pas trop rire, il fallait avoir un peu des têtes d'enterrement, comme l'on dit. Et je pense que Paul nous dit en fait tout l'inverse. La première chose qu'il nous dit, c'est un sacrifice vivant. Donc il faut que nous soyons pleins de vie. Les sacrifices dans l'ancienne alliance au temple de Jérusalem, enfin en particulier les animaux, qu'est-ce qu'on leur faisait à ces animaux ? On les tuait, on les abattait, bien sûr. Et là, ce n'est pas du tout la même chose. Nous ne sommes pas abattus, nous sommes au contraire rendus vivants.
christelijk leven hier bij Paulus heel anders. We worden niet dood, we worden levend gemaakt.
Si Jésus est ressuscité, c'est bien pour que nous puissions nous aussi vivre une vie nouvelle.
Omdat hier Jezus is opgestaan uit de dood, zo mogen wij ook dat nieuwe leven wandelen.
Et si Jésus est ressuscité, et s'il a donné sa vie en sacrifice, c'est pour que précisément nous entrions dans son sacrifice à lui.
En als dan de Heer Jezus Christus opgewekt is, als een God-offer, zo mogen wij ook eigenlijk in hem leven.
Donc il faut bien nous comprendre sur ce que Paul veut dire. Il ne veut pas dire « soyez comme le Christ » ou bien dans le sens où vos petits sacrifices vont plaire à Dieu. Ce n'est pas du tout ce que Paul veut nous dire. Je peux prendre des exemples. Ma petite crème de jour que j'aimerais bien m'acheter, mais elle coûte quand même un peu cher, ben je ne l'achèterai pas, je fais un petit sacrifice pour Dieu. Ou bien encore, ben cet après-midi de jeu vidéo avec mes potes, ben je ne le ferai pas par sacrifice pour Dieu, par exemple.
Et un exemple de zelf, die koopt en die inderdaad gebruikt, zeg maar. Dat is ook een bepaalde vorm van eigenlijk een.
Oui, c'est un achat coûteux
oui. Ah, okay.
Qui coûte de l'argent. Non, puisque précisément, Paul a passé son temps à dire aux Romains qu'un seul s'était sacrifié. Notre sacrifice à nous n'est pas cette petite bonne vertu que je viendrai exhiber devant Dieu pour lui plaire. Aucun sacrifice n'est attendu de moi. Puisque Jésus a tout payé. Alors, par contre, on peut renoncer dans la liberté de la foi à un certain nombre de décisions. Parce que nous avons ressenti dans notre cœur ou dans la prière que cela nous était demandé. Cet achat n'est peut-être pas très raisonnable. J'ai peut-être d'autres impératifs que de perdre mon temps n'importe comment. C'est cela qui nous est demandé. Mais en fait, offrir nos corps en sacrifice, c'est dire « tout lui revient ». Enfin, j'en finirai par là. Le sacrifice dans la première alliance, il était composé de plusieurs éléments. Il y avait des animaux, il y avait des végétaux, il y avait du parfum. Et en général, quand on prenait des animaux, on prenait les plus boiteux, les malades, les mal portants. Le livre du Lévitique est extrêmement pointilleux sur ces questions et il va dire qu'il faut toujours prendre le meilleur. Être ainsi nous-mêmes vu comme un sacrifice offert à Dieu, c'est être regardé par lui comme étant le meilleur de ce qui peut lui être donné. C'est ainsi que nous pouvons entrer dans cette dynamique, non pas d'amoindrissement ou de rabougrissement de notre vie, mais d'un élargissement.
Il ne s'agit pas de eigenlijk een, ja, zeg maar, een versmalling van ons leven krijgen, maar eigenlijk dat we ons leven mag openbloeien.
Un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu.
Zicht op het offer wat een heilig offer is, wat een goed offer is, wat we aan God mogen offeren.
Je vous invite à la prière. Seigneur, que nous puissions en cet instant te dire oui, prends ma vie, et si j'en ai repris quelque part, je te redonne ces parts que j'ai reprises pour moi. Tout est à toi, mon corps, mon âme et mon esprit. Et je te les offre, non pas par peur ou par désir de gagner quelque chose, mais simplement parce que c'est une réponse au sacrifice que tu as consenti. Toi, Jésus, total, irrémédiable et suffisant. Et tu l'as fait pour que nous puissions nous-mêmes être des vivants avec toi, ressuscité avec toi, pour vivre devant ton Père par la force de l'Esprit Saint. Sois béni.